équipe de grimpeurs expérimentés vous attend. Pour plus d'informations, visitez-nous au rickyblock.com. Ensemble, grimpons vers de nouveaux sommets.
Bonjour, ici David Molloy de chez Molloy Nettoyage. Vous êtes à la recherche d'une opportunité professionnelle enrichissante? Nous avons deux postes à combler, un de jour et un de soir. En tant que leader dans le domaine de l'entretien ménager, nous recherchons des personnes autonomes, minutieuses et motivées. Pour un travail sans pression, des salaires compétitifs et un REER collectif, info à commercial, molloynettoyage.com. Faites partie de notre équipe. Molloy Nettoyage, un choix brillant.
Ici Louis-Vincent Lebel. La référence pour votre toiture en bardeaux et vos rénovations, c'est LVL Construction. Nous sommes les seuls à avoir la plus haute certification du fournisseur GAF. Un bardeau garanti 50 ans, une installation garantie jusqu'à 25 ans. Une protection contre les vents de façon illimitée. Offrez-vous la tranquillité d'esprit. Projet de toiture, de rénovation, nous pouvons vous accompagner. Contactez-nous pour une estimation rapide et gratuite au 750-7124 ou visitez le lvlconstruction.ca.
Le samedi 25 mai dès 19h30, soirée de boxe construction Jolimont à l'Amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli. 14 combats de haut niveau, sanctionnés par la Fédération québécoise de boxe olympique, mettant en vedette des boxeurs du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Billets en vente à partir de $25 sur ticketaccess.net ou sur le site de l'Académie de boxe BSL. Un événement présenté par l'Académie de boxe BSL de Rimouski en collaboration avec la Corporation des événements spéciaux de la ville de Mont-Joli et le Quality Inn de Mont-Joli.
FM 93.
Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé, votre point de repère.
Le Québec maintenant.
16h02, deux sondages qui donnent un portrait semblable sont sortis aujourd'hui. Le PQ, toujours au Québec, en tête des intentions de vote, mais les deux sondages Léger et Palliste ne s'entendent pas là sur la place, par exemple, de la CAQ et du Parti libéral. On va décortiquer tout ça avec Philippe Gifournier dans quelques instants. Salut Valérie.
Salut Patrick.
Québec fournit près de 8 millions de dollars aux municipalités et aux offices d'habitation pour venir en aide aux locataires.
Oui, tout ça à l'approche de la date fatidique du 1er juillet. Ces sommes qui vont permettre de mettre en place des services d'aide au logement et d'aider financièrement les ménages qui doivent bénéficier d'hébergements temporaires. Et ce matin, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a voulu lancer ce message aux citoyens.
Je le répète, il faut faire appel aux services. Si on fait appel aux services d'aide, les gens vont être aidés, épaulés dans leurs recherches, puis appuyés là-dedans selon leurs besoins. On a besoin qu'ils nous appellent. Si on le sait pas, c'est difficile d'aller les aider.
Et le syndicat des policiers de Montréal demande plus de financement pour combler le manque d'effectifs dans ses troupes.
Oui, de plus, il souhaite la création d'une escouade dédiée au vol de véhicules. Yves Franqueur, président de la Fraternité des policiers de Montréal, estime qu'il y a un sentiment d'insécurité dans la métropole actuellement.
Il y a un climat d'insécurité présentement à Montréal, que ce soit dans le village, que ce soit dans le métro. Je rappelle qu'il y a deux victimes innocentes qui sont faites tirer dessus dans le nord-est de la ville, là, dans le dernier mois. Donc, c'est juste qu'effectivement, comme métropole, il faut donner les moyens à la métropole d'assurer la sécurité des citoyens.
Et la tension monte dans plusieurs campus universitaires aux États-Unis.
Il y a l'Université Columbia qui a augmenté le nombre de cours à distance pour les étudiants du campus principal à New York d'ici la fin de l'année scolaire. Des manifestations contre la guerre à Gaza commencent à s'étendre à d'autres collèges dans le pays. Il y a environ 130 personnes qui ont été arrêtées hier lors de manifestations à l'Université de New York et des dizaines d'arrestations qui ont également été effectuées lors de rassemblements à Yale alors que Harvard a restreint l'accès du public au campus.
Merci Valérie, on se retrouve dans une heure. Jérémy, on aura une belle visite au stade Saputo cet été.
Ouais, la nouvelle vient juste de tomber. Soccer Canada qui annonce la tenue d'un match amical entre notre équipe nationale canadienne de soccer qui affrontera le Mexique le 1er juin prochain ici même à Montréal. On se souvient qu'en octobre dernier, les Canadiennes s'étaient inclinées 1-0 face au Brésil devant une salle comble de plus de 19 000 spectateurs au stade Saputo. Alors, une excellente raison de revenir jouer ici à Montréal.
Catherine, Daniel Auteuil sera dans ta chronique.
Oui, Daniel Auteuil que j'ai rencontré hier. On le connaît évidemment pour sa grande filmographie. On parle de plus d'une centaine de films. Mais ce qu'on savait pas, c'est que Daniel Auteuil chante. Et il débarque au Québec pour une tournée.
J'ignorais ça.
Et oui, et tu vas l'entendre chanter dans quelques minutes. Je l'ai rencontré. Donc, super rencontre. Vraiment très, très sympathique, monsieur.
Beaucoup de réactions à notre conversation.
Je vois ça aussi. Sur
les îles de la Madeleine qui vont facturer les Québécois qui veulent aller là. Puis vraiment, moi, je le dis, vous êtes d'accord avec ça? Parfait, j'ai pas de problème. Moi, je pense que c'est une négation de la liberté de circulation au Québec.
Si on parle beaucoup de Venise, d'ailleurs.
Je connais pas le droit italien, OK? Mais si vous êtes d'accord avec les îles qui vont tarifer l'accès au territoire, je vous le dis, il y a des villes qui vont vouloir limiter. Percé a voulu le faire il y a quelques années. C'est tombé, je pense que ça a été jugé en cours là, sur la forme, pas sur le fond. Mais si vous êtes d'accord avec ça, ça va inspirer d'autres municipalités qui vont trouver d'autres motifs tout aussi nobles pour vous charger de l'argent pour rentrer sur le territoire. On verra si vous aimez ça quand Montréal va dire c'est 10$ pour rentrer.
À Montréal aussi. Hérouville, il y avait déjà passé.
Oui, Hérouville, mais c'était des devises étrangères.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère.
Le Québec maintenant. 16h05, on va se faire deux blocs de politique québécoise. Dans quelques minutes, on va parler avec notre ami Louis Lacroix à Québec. Ça brasse notamment pour Éric Lefebvre, le député qui était avec la CAQ, qui était le whip responsable de la discipline pour la CAQ. C'est un poste important. Et il est sorti du caucus, siège maintenant comme indépendant parce qu'il va se présenter avec Pierre Poilievre au fédéral. Et tout ça lui vaut beaucoup, beaucoup de tomates. Donc, on va parler de ça avec Louis dans quelques minutes. Philippe J. Fournier est là. Il est le rédacteur en chef de Québec 125 et aussi chroniqueur pour l'actualité. Deux sondages qui sont tombés aujourd'hui sur les intentions de vote au Québec. Salut Philippe.
Bonjour Patrick.
Donc, pendant qu'on parlait, pendant la pause, tu m'as dit, il y a un sondage de Léger qui va sortir. Il est sorti.
Il est sorti.
Je vais te demander d'abord de décortiquer le sondage Palace qui montre que les libéraux, d'une façon surprenante, seraient en hausse.
33% pour le Parti québécois et là, soudainement, on voit 23% pour le Parti libéral. On fait un saut. On n'a pas vu ça depuis des lunes. J'ai regardé la liste, Patrick, et c'était le meilleur sondage pour les libéraux au Québec depuis novembre 2020. Donc, ça fait longtemps. Sauf que en regardant les tableaux, j'ai tout de suite vu il y avait un piège, une illusion optique là-dedans. C'est que les chiffres de Palace chez les non-francophones indiquent que les libéraux ont grimpé de façon radicale dans les derniers deux mois. Et donc, l'hypothèse que j'avais par rapport à ça, c'est bon, le discours référendaire depuis des semaines, M. Plamondon qui dit que c'est une certitude avant la fin de la décennie qu'il va y avoir un troisième référendum. Je dis, bon, les fédéralistes, les anglophones, les allophones
se rallient,
n'est-ce pas? Mais là, on voit que Léger ne voit pas ce mouvement-là.
Parce que je vais préciser, là, OK? Chez Léger, Parti québécois, on est à 34%. Ça,
oui.
C'est dans les normes des sondages récents, là. La CAQ serait à 24 au deuxième rang,
exact.
24%. Le PLQ, toujours autour de 15%. Selon,
c'est
ça,
à son plancher.
Ça, c'est synchro avec tous les sondages qu'on voit depuis quelque temps.
Exact.
Mais ça, c'est en opposition, disons, avec le sondage Palace dont tu parles.
C'est intéressant parce que lorsqu'on regarde les chiffres chez les francophones, ils sont presque identiques. C'est vraiment, encore une fois, l'échantillon de non-francophones. Alors, il va falloir vérifier. Je veux dire, évidemment, la firme Léger est très bien établie. Je ne doute pas des chiffres de Léger. Peut-être qu'il y a eu...
Des fois, il y a des échantillonnages différents.
Absolument. Ouais, ouais. Mais les chiffres des francophones sont quasiment identiques. Le Parti libéral, chez Palace, sont à 10% et chez Léger, sont à 6%. Alors, il n'y a pas vraiment de nouveau siège au PLQ, même si les chiffres, à première vue, semblent bons chez Palace.
Chez les péquistes, est-ce qu'on peut déboucher champagne?
Ben c'est sûr qu'il est tôt. Les élections sont dans 2 ans et quelques mois. Mais on peut dire que la montée que nous avons vue d'abord à l'automne et ensuite qu'on a vu se poursuivre en janvier, février, ben ça a continué. Et donc, François Legault et la CAQ, malgré les promesses, malgré le budget, malgré d'avoir réglé la situation avec les syndicats du secteur public, ça n'a pas amélioré les choses. Donc, selon Palace, à 20% pour la CAQ, selon Léger, à 24%, on imagine que c'est quelque part entre les deux. Ce n'est pas un très bon score pour la CAQ. Et le PQ serait majoritaire avec de tels chiffres.
Je suis toujours étonné de voir que dans la région de Québec, le Parti québécois a de très bons scores. Ça a été la disette dans la région de la capitale nationale. Et là, ils sont premiers à 38% selon le sondage Palace. Comment on explique ça?
Ça fait environ un an qu'on a vu les chiffres chavirer à Québec. C'était en avril dernier, en fait, là, après la saga du troisième lien. Et là, je dis la première saga du troisième lien, bien sûr, qu'on a vu la CAQ prendre un coup. Et la CAQ ne s'est jamais rétablie à Québec depuis. Et je me rappelle du sondage juste après l'annonce des Kings, qui était en novembre. La CAQ était à moins de 20% dans la région de Québec. Et même les gens à la CAQ m'ont dit, on a perdu 25 points à Québec. Et ces électeurs-là se cherchent une avenue, un nouveau parti. Et pour l'instant, c'est vraiment le Parti québécois qui en profite. Et on voit, Éric Duhaime n'est pas loin à Québec. Éric Duhaime, plusieurs personnes avaient dit, après l'élection, il n'a pas gagné de siège. Ah, ça va s'effondrer, c'est la pandémie achève. Et on voit qu'à Québec, ça se maintient pour le Parti conservateur du Québec.
Je parlais avec Philippe Quentin il y a quelques semaines. Puis on essayait de faire l'autopsie. Là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la CAQ devienne si impopulaire? Toi, tu mentionnes le troisième lien. Oui. Est-ce que l'augmentation de salaire de 30 % que les caquistes ont décrété, est-ce que ça les a plombés?
Ça n'a pas aidé, ça c'est certain, surtout dans une année où il y avait d'énormes négociations avec le secteur public. Donc, on se donne un 30 % mais avec les professeurs, la première offre était 9 % sur 5 ans, ça bat même pas l'inflation. Et donc, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais bien sûr, je fais attention avec le cause à effet. La CAQ a tellement gaffé souvent en 2023 que c'est difficile de lier une gaffe à une chute dans les sondages. Si on regarde la progression, si vous allez sur mon site pour voir le graphique, vous voyez tout au long de 2023, la CAQ descend, et ce n'est pas encore rétabli.
OK, si on avait des élections demain matin, en vertu de ce sondage par l'Est, puis on se comprend, Philippe, là, c'est un Polaroid, on est à 2 ans des élections, on fait de la politique fiction, mais ça donne une idée des performances des partis. Québec solidaire serait où?
Québec solidaire, dans les 2 sondages publiés aujourd'hui, perd 4 points par rapport au sondage précédent de chacune des firmes. Et dans le sondage Palace, on posait la question, pour qui avez-vous voté en 2022? Et on voit que 30 % de ceux qui avaient voté QS sont maintenant au Parti québécois. Et ça, ça fait mal. Et donc, considérant que le PLQ semble se maintenir à Montréal, que QS a perdu du terrain face au PQ, QS aurait de la misère à garder tous ses sièges présentement. Il n'y aurait pas vraiment de gain, sauf peut-être, bien sûr, en Abitibi, reste à voir.
Même à Montréal, le Québec solidaire aurait de la difficulté?
Ça serait difficile de voir faire des gains, par exemple. Est-ce qu'il pourrait garder Verdun avec l'Île des Sœurs, qu'ils ont gagné par 400 sièges, je crois que c'était, il y a 2 ans? Ça serait difficile. Les sièges qu'ils ont déjà devraient être sûrs, mais je parle de gains. Je ne vois pas pour l'instant de gros gains à Montréal.
OK, Parti conservateur du Québec. Tu le disais, Philippe Fournier, ils sont populaires dans la région de Québec. Ils sont encore vus comme une alternative, mais ils sont à l'échelle du Québec. Selon le récent sondage Parlis, ils sont à 11 % c'est un peu plus. Je pense que c'est à peu près la même affaire là, avec le Léger.
Exact, c'est 10 % chez Léger. Le Parti conservateur se rendrait en très bonne position pour gagner les 2 sièges de la Beauce. Serait compétitif dans le reste de Chaudière-Appalaches. On regarde peut-être Lobinière-Frontenac. Et je regarderais des sièges dans la couronne extérieure de Québec, les Chauveau. Ça reste à voir. Mais avec la CAQ qui perd 25 points à Québec, le Parti québécois qui a repris une partie de ça, le Parti conservateur pourrait faire des gains à Québec.
OK. Monsieur Legault, est-ce qu'il peut regarder le passé puis voir des gouvernements qui étaient hyper impopulaires, un peu comme le sien, et qui ont quand même fini par gagner l'élection suivante?
Le seul précédent que nous avons au Québec de tout ça, dans le Québec moderne, c'est Jean Charest en 2007. Et peut-être que tu te souviens, Jean Charest, en 2007, la montée de l'ADQ, il n'avait pas des bons sondages. On voyait des 20-22 % et finalement, il a terminé, je crois que c'était 31 ou 32 % lors de l'élection en 2007. Il était minoritaire. Il a remonté la pente, mais est-ce que vous aimiez ou non Jean Charest, il était un très bon campaigner. Ce que M. Legault, je pense, n'a pas prouvé lors en 2018 ou en 2022. Les campagnes n'étaient pas aussi solides. Alors, il y a des précédents, mais ils sont minces.
Charest, dans le premier mandat, là, vers la fin du premier mandat, était aussi impopulaire que Legault maintenant?
Faudrait que je retourne les chiffres, là, tu me surprends
mais
un peu
mais avec
ça.
Mais
oui, absolument, on est dans les mêmes eaux. L'ADQ était en hausse. L'ADQ allait fermer le gouvernement en 2007.
Oui, je me souviens. Ça a failli. Mais ce que je voulais savoir, c'est généralement, quand t'es bas comme ça, tu vas te faire battre aux élections.
Généralement, surtout dans un deuxième mandat. Les libéraux de Justin Trudeau espèrent encore que ça remonte, mais là, ça va faire un an qu'ils tirent de l'arrière par 10, 12, 15, 20 points. Et avec l'élection l'année prochaine, il faudrait vraiment croire au miracle pour voir que les libéraux peuvent se l'emporter. Donc oui, en effet, quand on perd du terrain dans un deuxième mandat, souvent ça achève.
OK, je comprends les échantillonnages qui peuvent être différents, Philippe, là, mais on a 2 sondages, le Palace et le sondage Léger qui vient d'être présenté. Là, on dit les détails dans le Journal de Montréal demain. C'est pas radicalement différent, mais il y a quand même des différences. Tu sais, on dit dans le Léger, M. Legault freine sa glissade. Dans le sondage Palace, M. Legault est troisième.
Exact.
Il n'y a pas comme un danger de perception pour l'industrie du sondage quand tu as des résultats. Je veux pas dire radicalement différents, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a quand même deux sondages qui sortent simultanément sur le même objet, la politique québécoise. Ça ne dit pas la même chose.
Je comprends ce sentiment-là. Et je ne suis pas sondeur. Je veux dire, moi, je critique généralement les sondages. Ça, oui. Je décortique et je critique les sondages. Alors, et oui, j'ai déjà critiqué sévèrement certaines firmes de sondage.